Donc, il y aura à peu près 40 minutes, c'est ça, de conférence. Et ensuite, des questions. Donc, on a un micro portable, donc on pourra passer et on essaiera d'instaurer un débat au moins un bon quart d'heure.
Bonjour, moi je suis vraiment ravi de vous retrouver ici ce soir, si nombreux, à la fois de retrouver des visages familiers et puis des jeunes et puis des personnes qu'on ne connaît pas. Lorsqu'on avait commencé à préparer cette conférence avec Damien, il nous avait demandé de faire une présentation assez simple et puis introductive à la théorie économique, de donner envie de savoir plus. Et puis, il avait choisi comme titre, c'était l'économie sans équation, c'est ça. Et alors, ce qu'on veut dire par l'économie sans équation, je ne veux pas rentrer trop en détail, c'est surtout que l'approche de l'économie autrichienne, qui est essentiellement subjectiviste, ça veut dire qu'on met l'accent sur l'individu, sur ses préférences, sur la façon de voir les choses, d'évaluer les choses, ne nous permet pas de faire des prédictions. On utilisait l'outil mathématique pour faire des prédictions. Alors ça ne veut pas dire que les Autrichiens ne sont pas bons en mathématiques. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Mais simplement pour dire que l'outil mathématique n'est pas forcément indispensable pour prédire les choses. Alors vous allez voir la force de la théorie autrichienne, c'est dans les explications économiques et surtout dans les prédictions, mais pas qualitatives, pas chiffrées, mais qualitatives. Alors, on va pas expliquer que demain le chômage sera de 3% ou de 10% ou de 50%, mais simplement on va dire que lorsque il y a un salaire minimum un peu plus élevé, ben, on pourrait s'attendre à un chômage un peu plus élevé, ce genre d'explication. Hein. On n'a pas besoin de faire des équations mathématiques pour le comprendre. Et c'est également pour vous donner envie de venir et de vous montrer que vous pouvez comprendre les événements économiques sans pour autant être un spécialiste en mathématiques. Et c'est ça la vocation de ces deux conférences ce soir. Pour commencer ma propre présentation, l'objectif, ça serait de vous dire ce que c'est qu'une crise économique. Alors, vous savez, il y a beaucoup de crises, des crises de l'adolescence, la crise de foi, les crises de toutes sortes. Hein. On sait à peu près ce que c'est. Mais les crises économiques, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression qu'on a l'impression de savoir, mais en réalité, c'est pas si simple. Il n'y a pas une définition très précise et très claire de ce que c'est que la crise économique. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une crise économique, comment on pourrait apercevoir la crise économique, et ensuite, pourquoi y a-t-il des cycles économiques? Parce que l'objectif n'est pas de comprendre pourquoi il y a une crise économique, mais pourquoi il y a des cycles ou des crises répétées, hein, ce qu'on appelle des cycles économiques, et puis de comprendre après comment se déroule le cycle économique, quels sont les mécanismes de ce cycle économique, et puis tirer quelques conclusions sur l'avenir et de vous expliquer quelles sont les perspectives du point de vue de cette théorie économique dite autrichienne. Alors, je regarde les yeux de quelques-uns d'entre vous. Quand on dit économie autrichienne, on ne fait pas référence à l'économie de l'Autriche. On fait référence à un courant de pensée originaire ou qui trouve ses origines quelque part au 19e siècle, à Vienne, en Autriche. La plupart, à l'origine, avaient des noms autrichiens, dont le nom de théorie autrichienne. Mais depuis, bah, vous avez des Roumains, des Paraguayens, beaucoup de nationalités qui s'intéressent à la théorie autrichienne. Donc, ce n'est pas l'économie de l'Autriche quand on dit économie autrichienne. Alors, le premier point que je vous avais annoncé, celui de savoir qu'est-ce que c'est qu'une crise économique. Aujourd'hui, je vais commencer avec le sujet qui va être le plus commun, hein, celui de chômage. On avait beaucoup parlé ces jours-ci parce que la courbe du chômage, il paraît-il, s'est stabilisée. Donc on a atteint des niveaux aussi hauts que les années, enfin, les années 90 et du coup on est très content. On dit que c'est stabilisé, donc ce sont les langages du gouvernement actuel. Ceci est un premier élément qui permet de comprendre que c'est une crise, parce qu'on voit que des personnes qui souhaiteraient travailler ne trouvent pas de travail. Et ce n'est pas un élément parfait, parce qu'il y a beaucoup d'autres paramètres qui pourraient éventuellement influencer l'évolution du chômage. Je vous avais dit brièvement à l'instant, vous augmentez le salaire minimum, bah vous augmentez le chômage, vous baissez le salaire minimum, vous baissez le chômage pour ne pas mentionner un certain nombre d'autres détails, comme les radiations ou comme les différents critères pour maintenir les chômeurs, qui seront plus ou moins longs. Donc, lorsque vous avez le chômage qui augmente, ça pourrait vous donner un indice, mais ce n'est pas non plus un indice effectif pour dire que c'est une crise, parce que c'est un indice qui est manipulable. Ce sont des chiffres manipulables, et de fait, le sont. Un deuxième élément, beaucoup plus intéressant, est celui des défaillances des entreprises. Ça aussi, hein, vous pouvez voir comment cet indice de défaillance d'entreprise évolue. Mais comme pour le cas du chômage, si vous regardez, je voulais vous montrer comment ça se passe pour comprendre une crise. Bah, vous apercevez que, mettons, les 2000, hein, le chômage baisse et puis d'un coup, il remonte. Hein. Et là, on pense que c'est une crise. Pareil, la faillite des entreprises, à un moment donné, ça baisse et puis ça remonte. Là, c'est la fameuse crise des années 2000. Puis pareil, ça rebaisse un peu et ça remonte. Ça rebaisse un peu et devinez, ça remonte. C'est comme ça qu'on pourrait évaluer les crises économiques. Parce qu'à un moment donné, les entrepreneurs qui veulent faire du profit, malgré eux, en dépit de leurs attentes et préférences, bah, finalement, on se retrouve à faire faillite. Un autre élément, et l'élément finalement qui est celui qui est beaucoup plus courant, est celui du CAC 40 ou d'autres indices boursiers. Vous regardez partout et vous apercevez qu'à des moments donnés, bah, l'indice baisse soudainement. Là, c'est l'année 2000, donc il y a eu une baisse spectaculaire en deux mois, entre septembre et octobre, et puis sur une année et demie, entre 2007 et 2008, il y a eu 50% de baisse de l'indice boursier qui mesure les performances des 40 entreprises françaises. Mais pareil, ce n'est pas non plus un indice très fiable, hein, comme celui-ci de la faillite des entreprises. J'ai oublié de vous dire pourquoi il n'est pas si fiable que ça, en fin de compte, parce que ça dépend de quelles entreprises. Alors, ça dépend si ce sont des grosses entreprises, ça dépend de combien de salariés ils ont. Alors, vous avez le statut actuel en France de l'auto-entrepreneur. Et bien, si les entrepreneurs font faillite, ce qui est très facile, on dépose le bilan, on change d'entreprise, on crée d'entreprise. Ça ne veut pas dire grand-chose lorsque l'indice des autres entrepreneurs, finalement, il est... la faillite d'entrepreneur est un peu plus importante. Ce n'est pas la même chose qu'en Virgin où d'autres entreprises font faillite. Et puis, pareil, celui-ci n'est pas non plus un indice très fiable parce que ça concerne très peu d'entreprises. Et puis, ces entreprises-là, finalement, ne font pas faillite simplement... l'indice boursier moyen baisse ou leurs performances sont évaluées comme étant plus faibles. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une crise. Toutefois, il n'y a pas un élément ou une définition précise de la crise, mais lorsque vous cumulez ces différents événements, vous pouvez finalement imaginer qu'il y a une crise parce que toutes ces choses-là finalement sont corrélées. Les entreprises font faillite, les gens partent au chômage et puis leur performance en bourse est plus faible. Et là, on pourrait parler des crises. Mais alors, la crise, ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus intéressant, ce n'est pas des crises. Parce qu'après tout, les entreprises font faillite. Parce qu'après tout, les gens peuvent changer de travail, peuvent rester sans travail pendant une certaine période de temps. Ce qui est finalement plus important, et c'est ça qui demande une explication, et c'est là où la théorie autrichienne se distingue d'autres théories économiques, c'est parce qu'on n'explique pas forcément ce qu'est la crise, mais en fait, on explique pourquoi il y a des cyclicités. Ça veut dire qu'il y a des moments donnés où ça augmente, prenons le CAC 40, toujours comme indice, bah, il augmente, puis il baisse, puis il augmente, puis il baisse. C'est ça qui demande des explications. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, comment dire, ce sont des symptômes. Ces choses-là, donc,
la faillite des entreprises, le CAC 40 ou le chômage sont un peu un thermomètre pour la crise. Aucun, il ne s'agit pas d'un thermomètre très très fiable, mais il s'agit d'un thermomètre qui nous explique un peu comment évaluer, comment comprendre les choses. Maintenant, il faudrait comprendre quelle est la cause. Il ne faudrait pas se résumer au simple constat qu'il y a une crise. Et maintenant, la véritable question, celle de la théorie autrichienne, c'est celle à répondre d'une manière beaucoup plus pertinente que tous ses autres concurrents, et celle de savoir pourquoi y a-t-il des cycles économiques. Alors, pour dessiner un graphe extrêmement simple, vous avez sur une colonne la croissance, et une autre colonne, le temps. Donc, si on était parfait, si tout le monde savait la même chose, la quantité égale, si on pouvait prévoir le futur, on aurait certainement une croissance assez parfaite. Mais la réalité est un peu différente. Comme je vous disais, si vous prenez en compte la subjectivité et la faillibilité des gens, on ne sait pas tous la même chose et surtout, on se trompe. À ce moment-là, on pourrait penser que la croissance suit une courbe un peu comme celle-ci, un peu en dessous de ce qui serait, si on était tous des anges, on serait tous parfaits, mais avec des variations, parce que parfois les entreprises vont faire faillite et puis vont se redresser, vont faire faillite. C'est comme la vie d'entreprise, comme la vie d'une personne. On vit et puis on meurt, et puis d'autres personnes naissent, et ainsi de suite. Mais le véritable problème, si vous regardez les différents indicateurs entre ceux dont je vous ai parlé, c'est que ça varie beaucoup plus fortement. Vous avez des croissances inexplicables, soudaines, et puis vous avez des chutes profondes. Et c'est ça qui pose problème. Pourquoi ? Et si vous regardez pour l'histoire de l'économie, 20e, 21e siècle, ces croissances-là sont davantage plus fortes et les baisses encore plus fortes si vous comparez, en gardant quelques éléments de comparaison avec le 19e siècle, où ces cycles économiques étaient plutôt liés à la guerre ou à des moments très très spécifiques ou confinés à des pays ou à des secteurs, alors que les crises aujourd'hui sont plus fortes, sont internationales et ça traverse tous les secteurs d'activité. La spécificité de l'école autrichienne par rapport à d'autres théories de l'économie, c'est qu'elle s'intéresse véritablement aux causes. Alors je vous disais qu'il y a quand même des explications anecdotiques. Vous avez ce monsieur en économiste du 19e siècle qui s'appelle Stanley Jevons qui avait dit que les cycles économiques étaient un peu influencés par les tâches solaires. C'est pas du tout très, très sérieux, ça nous fait penser à des. Comme les vagues sont influencées ou comme les marées sont influencées par la Lune. Bon, vous avez beaucoup d'autres, plus d'économistes qui cherchent à établir des corrélations, à dire qu'il y a des différences de 10 ans, de 30 ans, de 40 ans entre différentes crises économiques. Vous avez peut-être étudié ou entendu parler de Kondratiev, de Youngblom, de Kitchin. Et vous avez des périodes de 10 ans, de 40 ans, selon les auteurs. On regarde le 19e siècle, le 20e siècle, et on essaye de comprendre quand est-ce qu'une crise se passe pour pouvoir anticiper la prochaine. Mais vous comprenez assez bien qu'il n'y a pas de ne peut pas avoir une telle régularité dès lors qu'il s'agit des humains qui font des choix et qui, ces choix-là, vraiment ne peuvent pas être anticipés. Vous avez toute une autre série d'auteurs qui, comme Pigou, pense que les crises sont dues à un choc exogène. C'est quelque chose d'extérieur, quelque chose d'inattendu qui se passe, et à ce moment-là, cela provoque une crise. Alors, par exemple, Schumpeter pense que c'est une grappe d'innovation, et à ce moment-là, on s'engouffre, on continue à investir, et puis on se rend compte que ces investissements ne sont plus soutenables, et du coup, on subit une crise. Et puis, vous avez d'autres explications plus ou moins psychologisantes, où on pense qu'il y a des individus précis, des spéculateurs ou des individus qui cherchent à avoir de l'argent, et parmi ces économistes qui expliquent en ces termes-là, il se trouve, c'est Keynes, un auteur dont on va parler dans la deuxième conférence, mon cher collègue et co-conférencier Gabriel Jiménez-Roche va me dire davantage. Keynes avait développé ce concept-là qui s'appelle le animal spirit, en anglais, selon lequel il va les différents acteurs sur le marché sont mus par une certaine irrationalité
et du coup font des choix complètement, complètement arbitraires, et cela provoquerait la crise, ou serait un élément qui déclencherait la crise. Et ainsi de suite. Vous avez toutes sortes des explications. Mais la véritable explication, pour l'instant, manque. Parce que on peut dire, bon, les crises sont provoquées par des cycles exogènes. Et les cycles exogènes, ça ne veut pas être un hasard que tout le temps, il y a des cycles exogènes. Hein? Ou on pourrait dire qu'il y a des cycles qui sont dus à tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Mais ce serait une sacrée coïncidence, hein, que ces cycles-là arrivent comme ça. Donc la théorie dite autrichienne, développée par ces auteurs originellement autrichiens, cherche à expliquer ces variations-là et s'intéresser aux causes. Et je vais vous montrer par la suite, les véritables explications de l'économie autrichienne ne seront pas expliquer la chute, mais expliquer le boom, l'essor économique, comme on pourrait dire en français. C'est là la véritable origine de la crise. Et qu'est-ce qui provoque ? Qu'est-ce qui provoque l'essor économique ? Eh bien, d'un point de vue autrichien, il faudrait regarder le crédit. Il est extrêmement important de comprendre comment fonctionne le crédit. Puisqu'en réalité, il s'agit, c'est marqué sur mon slide, d'un transfert définitif, mais temporaire. Ça veut dire qu'on rembourse à un moment donné d'un bien économique contre la promesse d'un paiement futur. Ce serait une créance. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que le crédit, tant qu'il résulte d'une épargne, est limité par la quantité d'épargne qui existe à un moment donné. On ne peut pas prêter plus que d'autres gens l'ont épargné. Donc c'est une limitation extrêmement importante, et c'est extrêmement utile pour comprendre qu'un peu le crédit est limité par l'épargne, on ne risquera pas à avoir des explosions économiques inattendues et donc des chutes économiques si fortes. Ça, c'est un élément très important. Mais comment se fait-il que le crédit n'est plus limité par l'épargne? Simplement parce qu'on a développé un concept, ou une pratique plutôt, quand c'était venu après, c'est de ce qu'on pourrait appeler un crédit fiduciaire. Et c'est ce crédit fiduciaire qui provoque finalement l'essor économique insoutenable, inattendu, et qui provoque autant de mauvais investissements. Alors, avant de vous expliquer un peu mieux comment ça se passe avec les mauvais investissements, il est important de comprendre en quoi consiste-t-il. Et là, on a trois instruments majeurs. Sans rentrer dans les détails, dans les différentes subtilités des uns et des autres, je vais vous les expliquer brièvement. Le premier, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Le deuxième, c'est le système des réserves fractionnaires. Et le troisième, ce sont les manipulations des taux d'intérêt. Alors, ces trois instruments-là sont désormais dans le pouvoir des dirigeants des pays. Plus ou moins directement, plus ou moins facilement, ça varie d'un pays à l'autre, d'une région économique à l'autre. Mais en tout cas, ces instruments-là sont parfaitement contrôlables. Ça ne dépend pas des résultats, des préférences sur un marché. Donc, un taux d'intérêt, normalement, vous avez un taux d'intérêt bas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça devrait dire, normalement? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'épargne. Mais aujourd'hui, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le président de la Banque Centrale Européenne avait décidé avec ses amis à un moment donné de le baisser. Donc c'est une décision qui est contrôlable. Pareil, l'augmentation de la masse monétaire et toutes les autres choses. Alors, il y a un phénomène très intéressant lié à l'augmentation de la masse monétaire. C'est un véritable fait. Ici, vous avez l'augmentation de la masse monétaire de ce qu'on appelle le M1. Alors, il y a plusieurs manières de compter la masse monétaire sans rentrer dans les détails. Vous avez les billets. Je n'ai pas de billets sur moi. Vous avez les billets de 0 euros. Et vous avez tous vos dépôts à la banque à vue. Ça veut dire que vous allez avec la carte bancaire et vous tirez l'argent. Toute cette masse monétaire-là, on appelle le M1. Après, il y a des M2 et M3 qui prennent en compte aussi les dépôts à terme et d'autres types de dépôts qui ne sont pas liquides ou pas facilement, que vous pouvez transformer facilement en argent liquide. Ces définitions varient d'une banque centrale à l'autre, mais grosso modo, c'est ça. Alors, pour ce qui est de la zone euro, il y a un certain calcul qui a été fait. Donc, la zone euro pour l'euro, parce que la monnaie euro commence en 99-2000. Donc vous pouvez voir en fait l'augmentation exponentielle. On avait commencé à quelque part à environ 1000 milliards d'argent en circulation, d'argent de base, on ne parle pas d'autres types d'argent. Et bien, en temps de paix, il y a eu quelques nouveaux rentrants dans la zone euro, mais quand même en temps de paix, la masse monétaire a plus que doublé en 15 ans. Vous laissez deviner ce qui va se passer dans les prochains 15 ans. C'est la même chose si vous regardez les États-Unis. Hein, ça, c'est la Fed. Pareil, c'est toujours le M1. Donc, vous voyez une augmentation exponentielle. Et ici, en gris, vous avez les crises économiques telles que la Fed les avait perçues. Donc c'est très intéressant parce que vous avez une augmentation de la masse monétaire, puis vous avez crise, puis on s'arrête un tout petit peu, et puis après on repart aussi vite. Pareil, on s'arrête un petit peu, on repart vite. Sauf là, dernièrement, on est reparti tout de suite avec une augmentation très importante du M1. On appelait ça en anglais quantitative easing. C'est en français, quoi, la traduction de ce terme-là, l'assouplissement monétaire. On assouplit les règles pour produire davantage. Donc vous voyez, en 5 ans, une augmentation exponentielle de la masse monétaire la plus simple. Mais ce n'est pas tout, parce que je vous avais dit, il y a plusieurs types de masse monétaire, de monnaie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir comment cette augmentation de la masse monétaire produit une augmentation encore plus forte de la masse monétaire. Et pour ça, vous avez besoin de comprendre le système des réserves fractionnelles. Je vais essayer de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans des détails très très techniques. Mais il est très important de comprendre ce qui se passe avec l'argent qui est produit par les banques centrales. Donc mettons que vous avez 100 euros. Vous recevez 100 euros en pays. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Vous le déposez à la banque. Et mettons que la banque est obligée de garder comme réserve seulement 10%. 10% de ces 100 euros font 10. Et du coup, ça veut dire que les autres 90, elle peut les prêter. Évidemment, comme toute banque, elle a tout l'intérêt de le faire, parce que si elle prête l'argent, elle pourrait avoir des intérêts dessus et ainsi de suite. Ces 90, elle va les prêter à quelqu'un d'autre. Cette autre personne va les déposer à la banque B. Et du coup, la banque B, dans un système où les réserves fractionnaires sont seulement de 10%, est obligée légalement de garder seulement 10% dans ses coffres. Donc elle va garder 9. Elle va prêter les 81. Et ainsi de suite, ces 81 vont aller dans une autre banque qui, elle, va garder seulement 8,1, va prêter 72,9. Et j'ai fait un jeu assez simple avec 6 banques. Et on s'arrête à un moment donné où quelqu'un garde dans ses propres poches les 59,05 qui restent. Maintenant, où sont passés les 100 euros à travers ce jeu, d'une banque à l'autre, prêt réciproque à l'autre? Alors, les 100 euros sont ici. Les 100 euros, ben, vous avez, ils sont composés de la somme des réserves, de ce que les banques gardent dans leur coffre. Alors, on vous a dit que les économistes autrichiens ne sont pas très forts en mathématiques, donc c'est une équation très très simple. Vous additionnez ça, j'ai vérifié, c'est vrai. Vous avez 40,95. Et puis, plus le dernier dépôt que vous avez gardé dans votre poche, là vous avez la somme des 100 euros. J'espère que c'est vrai. Ensuite, ce qui est plus intéressant encore, c'est que les 100 euros sont toujours là, mais il y a une autre somme d'argent qui a été créée. Et cette somme-là se compose de tous les prêts qui ont été octroyés. Ça veut dire que pour le même billet, il y a plusieurs titres de propriété. Vous pensez que vous l'avez dans vos dépôts à la banque parce que vous les avez déposés, mais l'argent, comme il a été prêté, est déjà la propriété de quelqu'un d'autre. Donc plusieurs personnes pensent qu'il est propriété de cet argent-là. Donc, ici, il y a une création monétaire de 368,56. Donc non seulement qu'on imprime des billets de 100 euros, mais l'impression même des billets de 100 euros dans un système de réserve fractionnaire à 10% augmente exponentiellement l'argent, la masse monétaire. Donc, si on vit dans un système avec 468,56 centimes masse monétaire. Mais évidemment, vous en doutez, il ne s'agit pas de 100 euros par ici, par là, c'est des milliards. Alors, vous avez dit, quelle est la masse monétaire? Ça, c'était la Fed. Donc là, vous avez 2800 milliards. Il ne s'agit pas de 100 euros seulement. Et ceci est un tableau qui vous explique avec des courbes quelle serait l'évolution de la masse monétaire selon le système fractionnaire de choix. Ça, vous avez 50%, la masse monétaire ne va pas augmenter beaucoup. Pour tous 100 euros mis en circulation, à la fin, il y aura 200. Bon, ce n'est pas très grave. Vous avez 10% de réserve fractionnaire. Pour tous 100, bah, vous produisez plus de 900. Automatiquement. Comme par magie. Vous voyez ? Et c'est exactement ce qui serait passé ici si on poursuivait l'exercice jusqu'au bout. On s'est arrêté à un moment donné, on a juste produit 400, on s'est arrêté quelque part par là. On n'est pas allé jusqu'au bout, on est recul, si vous. Si ça valait la peine. Maintenant, la véritable question est, mais alors, combien sont-elles ces fameuses réserves fractionnaires aujourd'hui, en France, en Union européenne, hein? Devinez. Si vous deviez choisir. Hein? Alors, je fais l'exercice aussi avec mes propres étudiants, et en général, on est 10, 15, 20, 50, mais on est loin de la réalité. Hein? C'était 2%, et plus récemment, la Banque Centrale Européenne a expliqué que finalement 2% c'est déjà trop. Du coup, maintenant, on a 1%. Hein? Imaginez la création monétaire. Ceci a aussi d'autres aspects, parce que ce n'est pas seulement la création monétaire, mais c'est aussi le risque de liquidité des banques, mais je ne veux pas rentrer dedans. Non, parce que si vous avez 1000 euros à la banque, en fait, la banque en réalité n'a que 1%. Ce sont les fameuses réserves fractionnaires. C'est ça que les banques font. Bon, il ne s'agit pas de rentrer dans le débat qui est de savoir s'ils font un système à 100%, un système à 50%. Simplement, il s'agit de vous montrer qu'un système à réserve fractionnaire augmente exponentiellement une masse monétaire déjà extrêmement augmentée, puisqu'il s'agit des billets de papier. Le troisième élément que je vous avais dit que j'allais parler, le troisième instrument qui permet d'augmenter la masse monétaire, ce sont les taux d'intérêt. Donc vous avez différentes banques centrales qui augmentent leur taux d'intérêt et puis après ils les baissent. Je vous avais dit, normalement, dans un monde normal, les taux d'intérêt baissent uniquement quand il y a de l'épargne. C'est le signe qu'il y a trop d'épargne, qu'il y a beaucoup d'épargne. Il y a trop d'épargne. Qu'il y a beaucoup d'épargne. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt baissent simplement parce que quelqu'un avait décidé ça, en accord avec d'autres gens, pour des raisons complètement différentes de l'existence même de l'épargne. Et il est aussi intéressant de voir comment la fluctuation des taux d'intérêt coïncide aussi en quelque sorte avec l'augmentation, avec les cycles économiques. Vous avez une augmentation, une baisse des taux d'intérêt, et puis vous avez une crise, augmentation, puis vous avez une crise, une autre de nouveau baisse. Maintenant, nous sommes à 0,25% les taux d'intérêt, directeurs de la Banque Centrale Européenne. Hein, on pourrait encore rester longtemps, on pourrait même passer à négatif. Mais de nouveau, sans rentrer dans ces détails, ce que je veux vous montrer, c'est que si on cumule toutes ces informations-là liées à l'augmentation de la masse monétaire, aux réserves fractionnaires, aux taux d'intérêt, en fait, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une expansion du crédit. Et ces crédits-là, va où ? Ce sont des personnes qui le consomment. Il y a effectivement une augmentation assez importante du crédit à la consommation, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, et d'une manière plus intéressante, une augmentation aussi de la dette publique. Les États, maintenant, s'endettent aussi pour bénéficier de ces nouvelles ressources de crédit. Et maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une loi économique qui nous dit que ce crédit-là est forcément mauvais. Mais lorsque le crédit fiduciaire, donc rappelez-vous, le crédit qui ne dérive pas de l'épargne, Personne n'a épargné. Simplement, c'est une multiplication monétaire et un crédit très très facile à produire. On pourrait estimer que ce crédit-là est largement improductif. Pourquoi ? Simplement parce qu'il pousse les producteurs à produire davantage de ce qu'ils auraient produit autrement, de prendre des risques plus importants de ce qu'ils auraient pris autrement. Et du coup, ça augmente le risque d'insolvabilité. Parce que les intérêts sont faibles, ça veut dire que normalement ça aurait dû être le signe qu'il y a beaucoup d'épargne. Mais c'était aussi le signe que l'argent il n'est pas cher. Un projet qui est évalué à 10%, c'est un projet risqué. Mais si le lendemain, le banquier vient vous dire, finalement, ce n'est pas 10% le prêt que je veux t'octroyer, c'est 2%. Le projet qui était perçu comme étant risqué, maintenant, il ne l'est plus. Parce que, par magie, parce qu'on a baissé les taux d'intérêt. Donc les banquiers et évidemment les politiciens ont ce pouvoir magique de donner un prix au risque et de centraliser ce prix-là. Et maintenant, vous comprenez que tout cet exercice, en fait, ne fait qu'augmenter le risque d'insolvabilité. Et finalement, lorsque vous avez un progrès économique, ce progrès n'est qu'illusoire. Parce que vous avez des investissements qui ne sont pas encore, et n'ont pas encore été avérés comme étant mauvais. On avait investi en pensant que c'était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'argent n'était pas cher, parce que le crédit n'était pas cher. Mais ceci était illusoire. Parce que là, on se réveille à un moment donné, c'est comme d'avoir bu trop d'alcool. Et puis après, on a la gueule de bois. Quand on boit trop d'alcool ou quand on prend des drogues, là, en fait, tout est possible. On peut voler, on pense qu'on est beau, on pense que tout le monde nous aime. C'est ça. Et puis, à un moment donné, on se réveille. C'est le retour à la réalité. Et là, on se rend compte que ce n'était pas vrai. Et bien, l'économie, c'est pareil. C'est la même chose. On a cette illusion comme quoi on fait du profit. Mais cette illusion est due à l'argent pas cher. Et puis, l'argent retrouve son prix normal. Et bien, on se rend compte que le projet, du coup, n'est plus faisable. Pour vous montrer un peu plus précisément comment se déroule un cycle économique, et si un peu pour rester bref, vous avez ce fameux crédit fiduciaire dont je vous ai parlé à l'instant, et comment il est produit, comment il se constitue, le crédit fiduciaire. Et ceci produit l'essor économique. Vous produisez des choses que vous n'aurez pas produites autrement. Et il est difficile, évidemment, de dire que ceci est mauvais, que ceci n'est pas bien. On construit des routes, on construit des bâtiments. Un autre point intéressant, c'est que lorsque les taux d'intérêt sont bas, ou l'argent n'est pas cher, ou les risques ne sont pas perçus comme étant si importants que ça, cela nous pousse à faire plus de projets, mais aussi des projets plus longs. Lorsqu'on veut construire une autoroute, il faut avancer les sous. On veut construire une maison, et il faut avancer les sous. Il faut avancer les sous pour la main-d'œuvre, pour les matériaux, pour un tas de choses. Et si on estime que le projet dure 10 ans et que sa rentabilité il a encore repoussé de 10 ans, l'horizon temporel il est vraiment très très élevé. On estime qu'on n'a pas la capacité de le faire. Mais lorsque les intérêts baissent, comme par magie, ce projet qui hier n'était pas faisable, aujourd'hui le devient. Et du coup, on commence à le faire. Et c'est pour ça qu'un des signes, en fait, de la crise, aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, ce sont les constructions pharaoniques. C'est un des économistes autrichiens qui cherche à montrer qu'il y a une corrélation entre les gratte-ciel, la hauteur des gratte-ciel, les records des gratte-ciel et les crises. Et qu'à chaque fois qu'il y a un record de gratte-ciel qui a été battu, il y aura une crise après. Et ceci repose sur cette analyse économique que je viens vous décrire. Donc, il faudrait retenir que le cycle économique allonge initialement la structure de production. Donc, on construit plus de choses. Certains projets sont finis, mais d'autres restent encore à être finis. Et là, bah, vous avez le retour à la réalité, la fameuse crise qu'on cherche à expliquer dans cette conférence. Pourquoi la crise arrive ? Il n'y a pas de loi pour dire qu'elle arrive à un moment précis. Il y a beaucoup de facteurs, hein, et certainement aussi des facteurs psychologiques. Hein. Il y a aussi un effet, on appelle ça en français, un effet panurgiste, n'est-ce pas ? On se suit les uns les autres. Alors vous avez déjà voyagé en train dans une destination inconnue. Et bien, si les gens se lèvent pour s'approcher de la porte, vous pensez que c'est le moment où le train va arriver à gare. Et vous le levez aussi. Donc, vous suivez les autres qui pensent... Dont vous pensez qu'ils savent mieux. Donc il n'y a pas de lois pour déterminer quand et comment, ça reste extrêmement subjectif, mais dans la subjectivité, il y a aussi un effet de délégation de compétences et d'imitation. Bref, économiquement parlant, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut construire plus, plus haut, plus grand, plus long, il y a une compétition pour les facteurs de production. Parce qu'il faut toujours du bois, des matières premières, de toutes sortes, pour construire ce qu'on voudrait construire, s'il s'agit de la construction. Eh bien, les biens n'augmentent pas autant que nos ambitions. Du coup, il y a une augmentation des biens, des prix, des biens de production, parce qu'il y a plus de demandes pour les matières premières. Du coup, le projet qui paraissait pas cher au début le devient... pendant son accomplissement. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'après tout, à la fin, lorsque vous avez peut-être fini votre projet dans les temps, et que vous avez payé les prix plus élevés que vous auriez pu payer autrement, vous apercevez que vous ne pouvez pas vendre. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, les taux d'intérêt faibles auraient pu signifier l'existence d'une épargne est très importante. Mais lorsque la baisse est artificielle, il n'y a pas d'épargne. En tout cas, il n'y a pas plus d'épargne que ce qu'il y avait. Il n'y en avait pas. Et le manque d'épargne rend les achats des biens déjà produits beaucoup, beaucoup plus difficiles. Et vous avez le bien, vous l'avez payé un peu plus cher, mais vous n'arrivez pas à le vendre parce que les gens ne peuvent pas l'acheter. Et là, vous avez un problème. Ce qui se passe en général, c'est que vous baissez les prix, vous soldez, ce qui s'appelle une crise économique. Vous licenciez, les actions en bourse chutent, et ainsi de suite. Vous avez tous les différents symptômes qu'on a vu au départ. Et les effets de ce phénomène, concrètement, lorsque vous avez une crise qui se termine, vous avez comme une construction qui n'a pas été finie. Il y a un économiste autrichien qui s'appelle Ludwig von Mises qui a donné un exemple qui m'a toujours frappé par sa clarté et simplicité. Il avait dit, imaginez que vous voulez construire une maison et que vous avez à disposition un nombre limité de briques, hein, mettons 100. Bon, si vous êtes une personne qui fait des bons calculs, vous allez construire une toute petite maison. Sacrément petite avec 100 briques. Mais alors, imaginez aussi que quelqu'un d'autre vient vous voir et vous dit, ne vous inquiétez pas, construis ta maison, mais tu peux compter sur 100 000 briques. Et du coup, bah, vous allez disposer les briques, pas comme pour faire une maison, vous allez disposer pour faire la fondation d'une plus grande maison. Et puis, une fois que vous avez la fondation, vous attendez toujours les briques qui n'arrivent pas. Vous pouvez construire la maison. Donc, l'expansion du crédit à travers les différents instruments économiques dont je ne vous avais pas au départ, incite les entrepreneurs à agir ainsi, à faire des mauvais calculs économiques. Et le véritable problème dans la crise est comment écouler les mauvais investissements. C'est pas parce que vous avez construit des choses, vous ne pouvez pas les vendre, ils ne sont pas finis. Vous n'arrivez plus à payer la main-d'œuvre, les biens de production pour avancer. Comment faites-vous ? Certains biens sont plus ou moins utilisables dans d'autres secteurs d'activité, d'autres ne le sont pas. Il y a des choses que vous pouvez utiliser, que vous avez destinées pour. Vous avez construit une maison, et cette maison-là, bah, vous voulez la louer à une activité commerciale, et bien ça ne marche pas, vous pouvez toujours essayer d'allouer à à quelqu'un en privé, et ainsi de suite. Certains biens peuvent avoir plusieurs usages. D'autres, c'est un peu plus compliqué. Vous avez une grue, vous avez fait une grue, et puis personne n'achète votre grue parce que tous les constructeurs ont fait faillite. Bah, vous avez l'air un peu embêté avec votre grue. C'est difficile à recycler. Il y a beaucoup d'autres. Donc, la crise se voit plus facilement dans les secteurs de production, dans la construction de navale, parce que ces biens-là sont moins facilement utilisables à d'autres finalités. Du coup, la crise, en fait, après tout, ce n'est que la liquidation des mauvaises affaires qui ont été faites pendant le boom. Ainsi, comprenez-vous que le point de vue autrichien, c'est de dire que l'origine de la crise, la véritable crise, commence avec l'expansion démesurée du crédit. Et que la crise, après tout, ce n'est que le réveil de cette euphorie injustifiée. Ça consiste à liquider les mauvais investissements. Maintenant, ceci étant dit, je présentais un peu brièvement la théorie autrichienne dite des cycles économiques. On peut se poser la question comment on pourrait se projeter dans l'avenir, quelle solution. Ben, la réponse n'est pas simple parce que je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Simplement, comme d'autres économistes autrichiens pourront le faire à ma place, je peux vous dire que cela dépend des décisions qu'on va prendre, des décisions notamment politiques, parce que ça se passe comme ça aujourd'hui. Et ces décisions politiques, bah, aujourd'hui, on a le choix entre liquider véritablement les investissements, les mauvais investissements précédents, donc attendre que tous les capitaux se redistribuent à des endroits un peu plus productifs, mais cela présuppose des réformes en profondeur, n'est-ce pas, du travail notamment. Si vous ne pouvez pas licencier des employés dans un projet qui s'est avéré être un très mauvais projet, à ce moment-là, vous restez non seulement avec la grue, mais aussi avec les gens qui travaillent pour faire des grues. Et l'écoulement de ce mauvais investissement devient plus pénible et plus difficile. Donc, pour faire simple, sans des réformes de ce type-là, rendre la liquidation facile, aussi pénible qu'elle puisse être, parce qu'évidemment, elle n'est pas du tout simple ni souhaitable de rester sans travail ou de voir qu'un investissement qui était très prometteur ne l'est plus, mais c'est une réalité. Donc si on ne fait pas ces réformes-là, on a l'autre solution qui consiste à nous dire, rêvons davantage, créons davantage de monnaie, créons davantage de crédits fiduciaires pour maintenir à flot les investissements qui existent, et puis on verra. Viendra quand viendra, et puis espérons que ça se passe 5 ans plus tard quand on ne sera plus au pouvoir. C'est ça. Alors, il est vraiment difficile de prédire le futur. Ça peut être un avenir très riche, mais ça peut être aussi une chute assez sévère, comme ça a été après la chute de l'Empire romain, dans la période des trous noirs, pendant des centaines d'années. Évidemment, je disais, j'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas prédire ce qui va se passer, mais j'essaie juste de vous rendre un peu plus curieux. Et pour conclure cette conférence, qui est un peu plus longue qu'elle était prévue initialement, je voulais vous faire une publicité pour un événement qu'on organise à Troyes tous les ans. Donc là, on part pour organiser la 4e édition. Et si vous voulez savoir plus sur l'économie autrichienne, sur l'explication liée à la crise, n'hésitez pas de vous inscrire à cet événement-là pour y participer. On a deux panels, donc une série de conférences introductives, comme si vous ne saviez rien, et puis une un peu plus sophistiquée, si vous avez déjà tous ces bases dont je vous avais déjà parlé. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et me tiens à votre disposition pour des questions.
Donc, si le public veut poser des questions, n'hésitez pas à lever le doigt, je vous apporte le micro. Voilà.
Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensez du free banking comme alternative à la fixation discrétionnaire de la masse monétaire par les autorités publiques.
Alors, déjà, c'est une question qui me lance dans une prochaine conférence. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour en pensant aux lycéens qui sont ici dans la salle. Mais alors, ce à quoi vous faites référence, c'est un débat qui est vraiment extrêmement présent et important dans la théorie économique et plus particulièrement pour la théorie autrichienne, qui est celui de savoir quel est le statut des banques. Hein, aujourd'hui, comme vous le savez certainement et comme je laissais entendre, les banques ont des réserves fractionnaires et suscitent une décision politique, donc ce n'est pas véritablement une affaire. Une libre entreprise, la banque aujourd'hui. Et vous avez deux versions majeures de la théorie des banques. Je parle de la théorie autrichienne, bien sûr. Vous avez d'un côté les Autrichiens, mettons, hardcore, hein, qui vont soutenir qu'il faut des réserves à 100%, qu'il faudrait ne jamais prêter plus que ses propres réserves et ainsi de suite. Et puis vous avez des personnes qui consistent à dire bon, qui disent en gros laisser un système libre comme commerce et puis verront ce qui se passe, peut-être qu'il y aura des réserves fractionnaires, très probablement oui, mais à ce moment-là les banques vont faire faillite au fur et à mesure. Pour revenir à votre question, elle pointe ce sujet extrêmement délicat et profond. Je pense que, bon, je ne veux pas critiquer la banque à 100%, mais je pense que qu'un système libre pourrait être une solution. Mais par ailleurs, il faudrait aussi voir sa faisabilité. Donc on pourrait aussi réfléchir dans une perspective, comment dire, un peu plus pragmatique et plus concrète. Parce que au point où ça vient aujourd'hui, avoir un système à 100%, ben, on peut rêver, d'autant plus que ça n'a jamais véritablement existé. Il est plus sage peut-être d'essayer d'enlever le pouvoir politique dans la décision des banques et surtout le sauvetage des banques. Parce que le véritable problème, pourquoi finalement les banques ne sont pas aussi libres qu'elles n'ont l'air, enfin les banquiers ne sont pas aussi libres qu'ils n'ont l'air, simplement parce que les banques, notamment les banques commerciales, ont du mal à faire faillite, hein, pour ainsi dire. Malgré tous leurs efforts de faire des mauvaises affaires, elles n'arrivent pas à faire faillite. Hein. C'est uniquement les grandes banques, enfin une seule banque d'investissement aux États-Unis, et vraiment ils sont allés trop fort, bah, eux ils ont fait faillite, et encore.
Oui, bonsoir. Oui. Je voudrais savoir comment doit agir un entrepreneur pour ne pas subir les effets nocifs de ces politiques publiques délétères.
Une autre question extrêmement pertinente, c'est auquel on a du mal à donner une réponse. Pour essayer une réponse à cette question, je reposerai une autre. Pourquoi, en fait, les entrepreneurs, en fait, s'engouffraient-ils? Parce qu'ils sont pas plus débiles que quelqu'un d'autre. Pourquoi ça s'engouffrait-il en fait dans ce système qui continue à le maintenir? Et ben la réponse c'est que on ne sait pas où on en est du cycle aujourd'hui. Hein. Moi je suis sur le point de chercher un crédit à la banque. Hein. J'aimerais obtenir un pas cher. Je sais pertinemment que les taux d'intérêt vont augmenter. Je sais pertinemment que les prix vont baisser. Je parle de l'immobilier, c'est mon sujet d'actualité. Je sais pertinemment tout ça. Mais, malgré ça, je suis toujours incité à y aller parce que les taux sont faibles. Parce que je me dis, bon, les prix vont baisser, mais si je veux racheter, bah, les prix seront aussi plus faibles. Ce qui est important pour moi, c'est d'obtenir un taux d'intérêt très, très faible. Et du coup, les entrepreneurs n'ont pas de véritable solution à la mesure où il n'y a pas une bulle de cristal. Donc, soit connaître, avoir des connexions politiques, connaître ce qui va se passer véritablement, parce que c'est une décision politique après tout. À part ça, il est très, très difficile. Hein. Les entrepreneurs peuvent s'adapter. On pourrait dire ça comme ça. Les entrepreneurs instruits pourront mieux saisir la gravité de la pub. Aujourd'hui, on pourrait bien estimer une bulle immobilière. Il ne faut pas, être Einstein pour le dire. Vous opérez une corrélation entre les salaires, le pouvoir d'achat, les prix des biens, et vous obtenez une différence assez importante. Vous vous dites, bon, à un moment donné, ça va passer.
Bonsoir. Merci pour votre présentation déjà. Je voudrais juste revenir sur le sujet du free banking. C'est-à-dire, j'ai lu des travaux de deux économistes américains qui sont George Selgin et Lawrence White, qui travaillent sur le free banking. Ils sont effectivement impressionnés par l'école autrichienne, mais ils insistent sur la frappe monétaire qui a été enlevée aux banques. Quelle est la position de l'école autrichienne concernant la frappe monétaire? Est-ce que les crises économiques vont systématiquement revenir tant que les banques n'ont pas cette possibilité, qui leur avait été enlevée dans le passé, de frapper leur propre monnaie?
Alors, mis à part la question de la frappe monétaire, la véritable opposition de l'économie autrichienne, elle n'est pas foncièrement économique, elle est éthique. C'est pour montrer du doigt le fait qu'on prête à quelqu'un d'autre des ressources qui ne lui appartiennent pas. Voilà. Un exemple que je prends habituellement pour expliquer ça dans mes propres cours, c'est... quelqu'un qui laisse ses meubles, qui part en vacances et qui laisse ses meubles au garde-meubles. Et puis après un certain temps, pendant son voyage, sans avoir dit au garde-meubles combien de temps il va rester en voyage, il retourne. Et puis le garde-meubles le regarde et dit « Je suis désolé, j'ai prêté les meubles, je pensais vraiment que vous allez partir très très loin. » Et je dis « Non, je ne suis pas parti loin, je suis rentré. » Le véritable problème d'un point de vue autrichien, c'est comme celui-ci avec les garde-meubles, c'est que le garde-meubles prête des meubles qui ne lui appartiennent pas. Les banques prêtent des sous dont ils n'ont pas la propriété. Et du coup, on crée un effet pervers de double propriété sur la monnaie. La véritable position de l'école autrichienne, ce que j'interprète bien, mais il y a certainement des débats et d'autres auteurs qui vont dire autre chose, mais ma perception personnelle est celle-ci. C'est que c'est un problème foncièrement éthique. Et quant à la frappe de monnaie, les économistes autrichiens, ils insistent beaucoup sur l'or comme monnaie, hein, pas sur les chèques. Parce que la frappe de monnaie par les banques, finalement, ce sont des chèques. La question est de savoir ces chèques-là correspondent à quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces choses-là. Un économiste autrichien standard, je dirais, va soulever la question de l'or. Et il va remontrer les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure pour montrer qu'il y a augmentation de la masse monétaire et que brusquement cela se fait quand? À partir des années 70. Donc avant les années 70, en général, l'augmentation de la masse monétaire, c'est la production de l'or. Enfin, parce qu'on n'avait pas d'autres statistiques sur la parité dollar-or de l'époque. Mais c'était 35 dollars l'once, hein, officiellement, et puis l'augmentation monétaire, c'était comme ça. En revanche, dès lors qu'on a laissé le pouvoir des frappes à l'État, en ce moment-là, la masse monétaire a augmenté. Donc les économistes autrichiens vont dire, qu'est-ce que ça change si on la donne aux banques, hein? Qu'est-ce qui retiendrait les banques à ne pas frapper davantage? La réponse des free banking serait de dire, la concurrence. Hein? La réponse autrichienne serait de dire, combien il y a de concurrence et toutes ces choses-là, finalement, c'est immoral, c'est pas bien, c'est du vol. Ça peut être efficace, le vol peut être efficace, on pourrait se voler les uns les autres ici, hein. Ça pourrait être efficace. Il dit, c'est pas pour autant bien.
Bonsoir. Alors, si j'ai bien compris, les réserves fractionnaires, plus le taux d'épargne imposé aux banques est faible, plus de l'argent est créé.
Des réserves. Plus le taux des réserves est faible.
Plus le taux des réserves est faible, plus l'argent peut circuler et plus il y a de l'argent pour société qui est créé. La question que je me pose, c'est pourquoi toutes les banques ou tous les pays n'imposent pas à leurs banques un taux très faible? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un peu dangereux? Parce qu'au cas où tous les clients d'une banque voudraient reprendre leur argent simultanément, vu que l'argent a été redistribué, est-ce que ça ne créerait pas un problème?
Oui, alors pour ce qui est la première question, vous voulez dire en fait pourquoi il n'y a pas des réserves plus élevées? Pourquoi 1% en Union européenne? Pourquoi les réserves ne sont pas telles plus élevées? Quand vous dites un taux faible des réserves, c'est le cas actuel, en fait, où en Union européenne, c'est 1%. Alors, aux États-Unis, ça dépend des capitales des banques, c'est 0%, 3% ou 10% selon la somme d'argent qui est concernée. En Chine, cela évolue tout le temps. Hein, c'était 18, puis c'était 25, puis maintenant c'est de nouveau 18 ou 19, un truc comme ça. Donc cela varie en fait d'un pays à l'autre. On pourrait dire évidemment qu'il est plus sage d'avoir des réserves plus importantes plutôt que des réserves plus faibles. Maintenant la question, pourquoi les États ne le font pas ? Pareil, ce serait une réponse vraiment très psychologique, hein, se mettre dans la peau d'un dirigeant et de dire pourquoi. Et bien, si je me mets dans la peau d'un dirigeant politique, je dirais, et moi je fais quoi si je ne fais pas ça, hein, c'est ça mon jouet, c'est qu'on retirait la possibilité de jouer comme ça au dirigeant, hein, au directeur de la Banque centrale, la question de son propre emploi se pose. Que ferait-il autrement ? C'est comme de retirer les jouets à un enfant. C'est ça, là. Vous avez un enfant et pour lui retirer les jouets, il dit, moi je fais quoi maintenant ? C'est une façon de s'auto-employer. Oui.
Professeur, comment expliquez-vous que les performances des banques suisses soient aussi mauvaises, pour ne pas dire pire, que les performances des banques européennes dans les 10 dernières années ?
Les performances, qu'est-ce que vous...
Elles sont tombées dans le piège des subprimes, elles sont tombées dans toutes les crises, alors qu'elles sont censées être une espèce d'entonnoir privilégié, je vais m'exprimer ainsi.
Alors, je ne connais pas bien la situation bancaire suisse, donc je ne vais pas avancer trop loin dans cette question, je suis désolé de vous décevoir, mais en extrapolant, je dirais que les banques tombent dans ce piège-là. Il y a un concept qui décrit ça, on appelle ça en français l'aléa moral, on dit en anglais moral hazard, hein. C'est l'idée selon laquelle lorsqu'on est couvert, on a la tendance de prendre plus de risques. Quelle est la couverture pour les banques, l'assurance, qu'elles seront renflouées dès lors qu'il y aurait un problème. Donc c'est valable pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour reprendre les crises récentes, pour ce qui est des capitaux des banques suisses, je ne connais pas, donc je ne sais pas quelles mesures ont été renflouées. Mais ça serait ça, en fait, l'incitation des banques, l'idée d'être renflouées.
Après, ils sont solidaires.
Ben, il ne faut pas un système pyramidal, en fait. Si vous voulez décrire le système bancaire en cours, il faudrait dessiner un système pyramidal, un peu un schéma à Ponzi, si vous êtes familier avec ce concept. Et qui reviendrait en fait à mettre la banque centrale en haut, qui arrose les banques nationales, qui arrose les banques provinciales et ainsi de suite, et qui les sauve. Parce que chaque banque a ses réserves au niveau supérieur, c'est ça qui est...
Alors si on le lie à la dette, on est dans le poker menteur planétaire.
On pourrait dire, je ne sais pas les mêmes mots, mais si on est dans la dette, on est liés les uns aux autres, hein, oui. Parce que ces crédits, notamment ce que ce sont les États, parce que vous regardez qui prête à qui aujourd'hui, parce que ce sont les États qui se prêtent.
Il y a deux questions ici. Là.
Bonsoir, monsieur. J'aimerais savoir comment les banques parviennent à manipuler le marché pour justement obtenir de si faibles taux d'intérêt.
Ah non, alors ce ne sont pas les banques commerciales qui manipulent le marché pour obtenir les taux d'intérêt, ce sont les banques centrales, et ce sont les banques centrales qui le décident. Donc, quand vous allez grandir un peu plus, vous allez lire les journaux. Vous allez lire les journaux et vous allez voir que tous les quelques mois, les journalistes font un grand cas des réunions des banquiers centraux. Et vous allez poser la question, mais pourquoi c'est si important cette réunion-là ? Et bien, à cette réunion-là, en fait, on décide si on maintient un taux d'intérêt, si on le baisse, si on l'augmente, et ainsi de suite. Après, il y a des banques centrales, enfin, le système des banques centrales est assez différent d'un pays à l'autre. On prend habituellement deux grands systèmes, hein, le système européen et puis le système américain. Donc, il y a la Fed, la Banque centrale américaine. Et là, c'est très intéressant parce que le banquier central, aujourd'hui c'est Bernanke, il va passer la main à quelqu'un d'autre sous peu, et lui il arrive au congrès, il explique quelle est la politique monétaire, et tous les autres prennent note. Alors, il pose parfois des questions, mais ils sont essentiellement très attentifs à ce qu'il va dire. Donc là récemment, il a dit on allait diminuer la croissance de la masse monétaire. Alors, il ne dit pas qu'il a baissé, mais qu'il va diminuer la croissance. qui va imprimer un peu moins d'argent, en gros. Tandis qu'en Union européenne, c'est un peu différent. C'est le banquier central européen qui va devant le Parlement et il répond aux questions. Et donc les politiques en Europe fonctionnent un peu différemment que les décisions politiques en Europe fonctionnent un peu différemment que les décisions politiques aux États-Unis, où elles sont essentiellement politiques. Enfin, les politiques bancaires sont surtout politiques, alors qu'en Europe, sont un peu plus bancaires.
Dernière question. Bonsoir et merci pour votre intervention. Je voudrais vous demander, j'aurais une question à propos de la déflation. Certains économistes nous mettent en garde contre la menace déflationniste. Est-ce que la réponse autrichienne ne serait pas de dire que c'est en fait une conséquence à des manipulations préalables et que ce serait un mal nécessaire?
Un autre beau sujet que nous avons abordé, je ne sais plus, cette année ou l'année passée à l'université d'automne à Troyes, une autre pub si jamais vous voulez revenir cette année. Déflation, pour expliquer ça aussi pour les lycéens. Alors, quand les prix augmentent, habituellement on dit que ça s'appelle inflation. Et les prix augmentent parce qu'il y a il y a une concurrence plus forte entre les consommateurs pour le même bien. Les prix baissent, ça veut dire que le consommateur n'en veut pas forcément de ces biens-là, ou bien parce qu'il y a plus de producteurs qui n'étaient pas, ou qui n'existaient pas avant. Du coup, on parle d'inflation et déflation. La déflation est perçue par quasiment tous les économistes comme le malheur absolu. Alors on va vous dire, pas de déflation. Pourquoi ? Parce que si vous faites une entreprise aujourd'hui, vous avez des projections économiques, et lorsque les prix baissent, bah, vos projections économiques s'avèrent être fausses. Et du coup, bah, vous ne voulez pas qu'il y ait une déflation, vous voulez qu'il y ait une inflation pour que ce que vous avez produit, vous pouvez vendre plus cher. Donc vous ne voulez pas vendre moins cher, vous voulez vendre plus cher. Les économistes autrichiens se distinguent dans ce groupe, comme sur beaucoup d'autres aspects, et certains d'entre eux insistent sur le fait que finalement la déflation n'est pas si mauvaise que ça. Hein, parce qu'on peut avoir de la croissance dans un contexte économique où les prix baissent. C'est ça aussi en fait qui est au cœur du débat sur le retour à l'or, parce que pourquoi on ne retournerait pas à l'or? Beaucoup d'économistes pensent que ceci est le malheur absolu parce que ça crée la déflation, parce qu'on a une masse monétaire très très élevée, et puis on passe à l'or, on ne pourrait pas produire autant qu'avant. Et du coup les économistes autrichiens disent certes, d'un point de vue on souhaiterait que les prix soient plus élevés, donc c'est le point de vue du vendeur. Mais du point de vue de l'acheteur, on souhaiterait que les prix soient plus faibles. Donc les acheteurs veulent une déflation, les vendeurs veulent une inflation. Et si on devait choisir, il n'y a pas de raison de choisir les uns plutôt que les autres, mais en tout cas, ce que les autrichiens diront, c'est qu'il ne faudrait pas voir là-dedans une malheur.
On va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Il faut qu'on respecte les horaires. Merci beaucoup, Marianne.